franceinter.fr.
Radio-Canada, RTDF, Radio France, la librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et bonjour à tous, bienvenue dans votre librairie francophone. Événement cette semaine avec une grande personnalité de la chanson francophone. Juliette Gréco est avec nous pour un livre de photographies et de souvenirs. Nous irons avec elle à Saint-Germain-des-Prés et à Saint-Tropez. Il sera question d'un sale type avec le nouveau roman de l'auteur suisse Michel Laya. Il dresse le portrait d'un personnage franchement antipathique. Et puis nous parlerons de l'un des grands romans de cette rentrée littéraire en lice pour le prix Goncourt, Sorge Chalandon revisite Antigone au cœur de la guerre du Liban, un roman choc qui a bouleversé nos libraires.
La librairie francophone, une émission diffusée sur trois continents. En Suisse, sur RTS la première, au Canada sur la première chaîne de Radio-Canada, en Belgique sur RTBF la première, en Afrique et dans toute l'Europe sur RTBF international, sur le continent américain avec le réseau Sirius, en France et dans les départements d'outre-mer sur France Inter. La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Et on commence par une triste nouvelle. J'aurais aimé ne jamais avoir à dire ces mots ici. Nous avons perdu l'un des nôtres, l'un de ceux qui ont fait que cette émission existe. Bernard Chérez, ancien directeur des programmes et de la musique de France Inter, nous a quittés brutalement mercredi, prématurément, après plusieurs mois de lutte contre cette foutue maladie qui touche tant de nos proches. Bernard Chérez était un vrai passionné, grand professionnel de la radio et de la musique. Il a contribué à révéler de nombreux artistes. C'est rare et paradoxal, mais aujourd'hui nous sommes sans voix. Nous sommes des hommes de radio sans voix. On dit que le spectacle continue, alors on va continuer. On va faire cette émission avec le souvenir de cette bienveillance qui nous a offerte depuis la première de la librairie. Et avec cette voix, la sienne, que nous garderons en mémoire. Un jour, au Francofolie de La Rochelle, il avait confié un souvenir autour de l'un des concerts de sa vie, celui d'un artiste résistant. Résistant comme lui, une étoile qu'il a désormais retrouvée. Quel est votre souvenir, celui qui vous a marqué le plus ?
Alors sans aucun doute, réponse rapide, le concert d'Alain Bachung l'année dernière, qui a surmonté un état physique très difficile. Et il est monté sur scène, il a fait un concert d'une émotion incroyable. Et après le concert, il m'a confié quelque chose qui m'a fait pleurer, je vous le dis, mais vraiment, c'est pas un effet de mots. Il m'a dit, tu sais, ma thérapie, c'est le public. Pour moi, c'est un moment, vraiment, je suis très ému quand j'en parle, parce que ça restera le concert de ma vie que ce concert de Alain Bachung ici même.
Nous penserons bien sûr à Bernard Chérez tout au long de l'émission. Dans la librairie francophone, vous le savez, nous parlons de tous les livres dans toutes les catégories. Avec nous, il y a quatre libraires, comme d'habitude, qui présenteront leur choix dans notre séquence La plus grande librairie du monde tout à l'heure. Annick Dor est en Belgique. Bonjour Annick.
Bonjour Emmanuel.
Manon Trépanier au Canada. Bonjour Manon.
Bonjour Emmanuel.
Bonjour Grégoire Courtois.
Bonjour.
Vous êtes libraire en France, vous représentez donc la France. Et Laura Sanchez représente la Suisse. Bonjour Laura.
Bonjour Emmanuel.
Merci beaucoup d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Juliette Gréco.
Bonjour.
Soyez la bienvenue dans cette émission.
Merci.
Il sera question dans la deuxième partie d'un beau livre auquel vous avez participé sur les photographies de Georges Dudognon. Vous racontez Saint-Germain-des-Prés et Saint-Tropez à travers des souvenirs et des rencontres. Mais avant, nous commençons cette émission par une histoire racontée par l'un d'entre vous. C'est votre tour, Juliette Gréco. Un moment de vie, une anecdote, ce que vous voulez. Vous avez carte blanche, que voulez-vous transmettre ?
J'étais toute jeune, c'était il y a longtemps, et je me promenais un matin à Golfe-Juan.
Oui.
J'étais là parce que j'allais commencer à chanter. J'étais vraiment tout début. Et je me promenais avec mon chandail noir, avec mon pantalon noir, mes cheveux noirs et mes gros yeux noirs. Et je me promenais sur un petit muret. Et il était tôt le matin, il était assez tôt. Et puis tout d'un coup, au ras du muret, je vois deux yeux. Mais deux yeux énormes. Je me dis, j'ai vu ça quelque part. Et j'entends, c'est toi Gréco, avec un accent très très fort. C'était... Oui, monsieur, et c'était Picasso.
qui était dans les parages, oui.
En caleçon blanc, qui jouait avec des enfants, avec les chiens, je présume, et qui était là, tôt le matin, une espèce de force taurine, un bonhomme fabuleux.
Ouais, ouais.
Et j'avais vu que les yeux. Ils étaient tellement particuliers, tellement énormes. J'ai reconnu cet homme à travers ses yeux. Voilà, c'est un très beau souvenir.
Vous avez gardé des contacts après ou pas ?
Je l'ai revu, il m'a amené voir une course de taureaux, ça ne m'a pas plu du tout.
J'imagine. Juliette Gréco est dans la librairie francophone cette semaine. Avant de recevoir Sorge Chalandon pour son nouveau roman, un livre en lice pour le prix Goncourt qui nous emmène au Liban, voici un poème du turc Nazım Hikmet, interprété par Bernard Lavillier. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Comme le scorpion, mon frère, tu es comme le scorpion. Dans une nuit d'épouvante, comme le moineau, mon frère, tu es comme le moineau. Dans tes menues inquiétudes, comme la moule, mon frère, tu es comme la moule. Enfermé et tranquille, tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Mais tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Mais tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq. Quand le bourreau habillé de ta peau, quand le bourreau lève son bâton, tu te hâtes de rentrer dans le troupeau. Et tu vas à l'abattoir, mon frère, en courant presque fier. Tu es la plus drôle des créatures en somme, plus drôle que le poisson qui vit dans la mer, sans savoir la mer. Sans savoir la mer. Et s'il y a tant de misère sur terre, c'est grâce à toi, mon frère. Si nous sommes affamés, épuisés, si nous sommes écorchés jusqu'au sang. Tu es terrible, mon frère, comme la bouche d'un volcan éteint. Et tu n'es pas un, hélas, tu n'es pas cinq, tu es des millions, mon frère, mon frère, mon frère.
Bernard Lavillier, Scorpion, extrait de son tout nouvel album sur les ondes de la radio-télévision suisse, de Radio-Canada, de la RTBF et sur France Inter.
Un journaliste n'a pas le droit de pleurer, il n'a pas le droit de mettre son cœur dans la balance. Le journaliste, il est simplement là pour expliquer ce qu'il voit. C'est un témoin.
La librairie francophone.
Même si le fond est réel, j'ai eu envie, moi, de faire un roman justement pour pas que le journaliste parle.
Emmanuel Kérad.
Et bonjour, Sorge Chalandon.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans cette émission. Vous
Merci.
Êtes journaliste et écrivain. Après Mon traître et Retour à Killybegs, vous publiez Le quatrième mur aux éditions Grasset, un livre qui connaît depuis la rentrée littéraire un beau succès. Il est d'ailleurs sélectionné pour le Goncourt. C'est un livre sur la paix, un livre de paix. Peut-on écrire un roman autour de la guerre du Liban quand on est journaliste, Sorge ? Est-ce qu'il faut en rajouter ?
Il faut en enlever. C'est-à-dire que c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est pas un livre de journaliste du tout. C'est le livre fait par un homme qui n'est plus journaliste lorsqu'il l'écrit, c'est-à-dire que le journaliste que je suis, j'ai écrit sur le Liban, j'ai écrit sur les massacres de Sabra et Shatila, j'ai écrit sur d'autres guerres en tant que journaliste. Et donc je ne rajoute rien, mais je prends le droit de dire « je ». Parce que pendant toutes ces années de guerre couvertes en tant que journaliste, un journaliste ne dit pas « je », théoriquement, il y en a qui disent « je », mais ce n'est pas mon truc. Et là, j'ai eu envie, enfin, de faire sortir tout ce qui m'empoisonnait depuis tout ce temps-là. Et donc ce livre-là, c'est pour que le poison sorte.
Il y a deux parties, en tout cas, dans ce roman, sans Chalandon. L'une qui se déroule dans les années 70 avec un groupe de militants d'extrême gauche, plein d'utopie, et une autre dans les années 80, lors de la guerre du Liban, quand Sam, un grec juif artiste, décide de monter Antigone à Beyrouth, comme ça, au cœur du conflit, pour réconcilier les communautés. Pourquoi Antigone ?
Parce que ce que j'aime dans cette pièce de théâtre d'Anouilh, c'est qu'elle a été présentée à la censure militaire nazie.
Oui.
Pour être joué à Paris pendant l'occupation et que les nazis ont accepté. Ils ont lu la pièce en disant « c'est pas mal ». Pourquoi c'est pas mal ? Parce que Créon résiste à Antigone et Créon va écraser Antigone. Mmh. Et pour eux, la résistance était incarnée par le roi Créon qui ne cède pas à cette petite femme qui trépigne et qui lui tient tête. Donc les nazis disent oui à Créon, oui à l'Antigone d'Anouilh. Et de l'autre côté, une partie de la population française voit l'autre résistante, la vraie, la seule, c'est la petite Antigone. Donc ce malentendu qui a eu lieu en France en 1944, Antigone applaudie par une partie de la France et acceptée par les nazis pour des raisons différentes, je voulais que cette même Antigone-là soit jouée au Liban et que chaque communauté voit la résistance là où elle pense être. Et tant pis s'ils sont en contradiction.
Voilà, et que chacun y participe. Alors il y a comme ça des conflits entre eux, des conflits de point de vue en tout cas. Tout le monde joue le jeu. Et c'est vrai que cette adaptation d'Antigone, d'Anouilh, qui lui-même a adapté l'Antigone de Sophocle, ça renvoie à chaque fois la tragédie humaine. L'art doit être en résonance avec les tragédies de l'histoire. C'est un peu ce qu'on a l'impression de lire, en tout cas dans votre livre. Son rôle n'est pas vain, donc. L'art a un rôle possible.
Moi, je trouve que l'art a un rôle possible, mais en tout cas, Georges et moi, je suis désolé, mais je vais parler de moi comme si j'étais l'un des personnages de ce livre-là.
Allez-y, oui. En même temps, Georges,
Samuel et moi, l'idée n'était pas de faire la paix au Liban avec Antigone, c'est juste pas possible. Mais que pendant 2 heures, et c'est le pari de Georges, pendant 2 heures, puisqu'il a prélevé un acteur dans chaque camp, pendant 2 heures, les fusils vont se taire.
Oui, alors très juste, ça, ce que vous dites est vrai, mais il y a quand même un échec. Peut-être l'échec de votre écriture, peut-être l'échec de la situation, mais un personnage dit une phrase très forte. Ce que tu as essayé de faire n'a plus de sens aujourd'hui. Tu as mélangé les frères et les ennemis pour rien.
Absolument. Alors l'échec, c'est qu'on peut le dire, parce que ce n'est pas un livre à suspense.
Oui, bien sûr.
Antigone ne sera pas monté à Beyrouth. Mais l'espoir et la réussite, c'est que ce livre, il a été écrit. C'est-à-dire que moi, je suis rentré de ces années de guerre, je suis rentré en paix, ce que Georges ne fera pas, puisque Georges, je l'envoie beaucoup plus loin. Donc la guerre ne m'a pas eu. La guerre a eu Georges, parce que je lui ai offert. C'est une victime sacrificielle. Mais en tout cas, j'ai sacrifié mon personnage Georges. Pour moi, je peux rentrer en paix et ça y est, et je peux en parler avec vous.
Mais c'est une arme de dénonciation et non pas une arme de combat, théâtre.
Ce n'est pas une arme de combat.
Oui, c'est impossible, on ne peut qu'agiter les consciences.
On peut qu'agiter les consciences, mais la musique est une arme de dénonciation. Il y a plein de choses.
Oui,
c'est-à-dire que l'idée n'est pas que le fusil se dise « Ah, j'ai tort !» C'est juste qu'il s'arrête une seconde, même s'il tire après.
On va laisser la place à nos libraires, sans Chalandon. Manon pour le Canada, que pensez-vous de ce roman?
Écoutez, Emmanuel, impossible de ne pas être bouleversé par les personnages. Particulièrement le narrateur, qui rêve tellement d'être un héros qu'il passe à côté de sa propre vie, on dirait. Et moi, je dois vous avouer que j'ai été très séduite aussi par la relecture d'Antigone, qui prend doublement son sens. Moi, j'y crois à changer le monde par l'art. La dénonciation, pour moi, c'est une arme. Et c'est ce que tentent de faire les personnages, changer le monde par l'art, mais c'est aussi ce que fait Georges Chalandon. Et finalement, il faut souligner l'écriture. Les descriptions sont tellement précises qu'on s'y croirait. Et je dirais, avis aux âmes sensibles, parce que certaines scènes vont nous hanter très, très longtemps.
Exact. Laura, pour la Suisse, qu'en pensez-vous?
Oui, moi, je suis très touchée par ce qui a été dit au tout début sur le travail du romancier et de journaliste, parce que j'ai été justement très impressionnée par vos personnages. Je rejoins Manon là-dessus. Votre histoire est très forte, mais vos personnages sont, pour moi, encore plus troublants parce qu'ils sont hyper crédibles et vraiment, ils ont une vraie épaisseur. Et j'ai vraiment eu l'impression de passer un moment avec eux et j'en ai vraiment la gorge aussi totalement nouée.
Annick, pour la Belgique, êtes-vous d'accord?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai trouvé intéressant surtout de suivre ce personnage de Georges pas à pas. Et finalement, on découvre petit à petit avec lui cette guerre, les factions, ses enjeux, ses horreurs, enfin toutes les conséquences aussi psychologiques qui en découlent. Et c'est vrai qu'on passe un petit peu en même temps que ce personnage de l'utopie à la dure réalité. Mais c'est vrai que je rejoins Manon sur l'idée d'âme sensible. C'est vrai qu'il faut quand même être honnête, le livre est terriblement violent et donc il faut être capable quand même de le lire.
Il y a des petits passages comme ça sort Chalandon absolument terribles, notamment celui au cours duquel Georges, qui a pris le relais pour monter cette pièce, à la place de Sam, qui est gravement malade, il lui donne finalement le mandat d'aller à sa place. Et il se retrouve comme ça avec un chef phalangiste chrétien qui tire sur les hommes d'en face. Sauf que quand il tire, en même temps, il récite Victor Hugo. Et Georges dit « Il a tiré sur les lueurs d'espoir, sur la tristesse des hommes, il a tiré sur moi, sur nous tous. »
Et cette scène est réelle, c'est-à-dire que j'ai vécu cette scène aux côtés d'un tireur, aux côtés d'un sniper à Beyrouth, en pleine nuit. Mais il y a une différence fondamentale entre ce que j'ai vécu et ce que j'ai écrit. C'est que dans le livre, c'est le tireur qui demande à Georges de venir contre lui, de ne pas lui parler, mais de se mettre contre lui. Et de se mettre contre lui pour c'est un peu sa béquille de tir. C'est-à-dire qu'il veut, lorsqu'il tire, il veut être deux. Sauf que dans la réalité, c'est moi qui ai demandé à être contre lui. C'est-à-dire, lui m'avait demandé de m'asseoir contre le mur. Lui était à côté de moi. Et à un moment donné, je lui dis « Est-ce que je peux me rapprocher ?» Parce que je veux sentir ce qui se passera. Et je sentais ce qui se passait. C'est-à-dire que je voulais, c'est très particulier comme sensation, je voulais sentir son tremblement quand il s'apercevait que la cible approchait. Brusquement, sa respiration qui cessait, puis le tir, puis le tremblement ensuite. Et je voulais le sentir parce que je voulais écrire cette scène-là. Je n'avais pas le doigt sur la détente, c'est lui qui avait le doigt sur la détente. Mais à un moment donné, je me suis demandé s'il y avait un tireur ou deux tireurs. C'est-à-dire que j'étais tellement à côté de lui, tellement imbriqué, que c'était... Et à un moment donné, entre deux tirs, en pleine nuit, dans cette maison-là, brusquement, avec son accent libanais, il me dit « Sorge, connaissez-vous Victor Hugo ?» Et il récite « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. » Et là, pour la première fois depuis très longtemps sur un front de guerre, je me suis mis à pleurer parce que je trouvais que voilà, la folie de la guerre, c'était exactement ça. C'était un tueur qui était contre moi. Moi, j'étais contre lui et brusquement, il y a Victor Hugo qui arrive et qui écrase tout ça. Sauf qu'il a continué à tirer après.
Qu'est-ce que vous faisiez là avec
un reportage.
Vous avez eu l'impression de tuer?
Non, je ne l'ai pas eu. Non.
Grégoire, pour la France, vous avez lu ce livre fin août, vous l'avez relu évidemment pour cette émission aujourd'hui.
Oui, alors... tout à fait, je l'ai relu pour cette émission et donc j'étais curieux de voir l'impression que j'allais avoir. J'avais une vision un petit peu mitigée, on va dire, du début du livre, en particulier sur la naïveté de ce jeune Georges. Et donc du coup, je me suis dit, tiens, en relisant, qu'est-ce que ça va donner? À l'aune de cette tragédie globale et de l'ensemble du livre, c'est évident qu'on ne lit pas de la même manière et que toute cette introduction parisienne pleine d'utopie et pleine de passion, on ne peut pas la voir comme quelque chose de naïf, mais comme quelque chose vraiment qui vient du cœur et qui, de toute manière, il ne peut pas lutter, Georges, contre cette envie d'aller le plus loin possible.
C'est vrai qu'il y a plein de symboles à travers Georges, à travers ses personnages, sort Chalandon, beaucoup d'images, certains vous le reprochent d'ailleurs, d'être si visuel comme ça. Ces hommes dans votre roman, comme ça, ceux qui veulent monter Antigone à Beyrouth, à proximité de la ligne de démarcation, parce qu'il faut savoir, quand on connaît un peu, voilà, sur la ligne, quand on connaît un peu Beyrouth, c'est une sorte de carrefour où ont lieu des échanges terribles, où les communautés s'affrontaient. C'est vraiment une forme de résistance, une foi extraordinaire. C'est au-delà de la naïveté, ça, au-delà de l'utopie. C'est presque de l'inconscience. Est-ce qu'ils existent, ces personnages?
En tout cas, Georges existe avec sa naïveté, c'est la mienne, avec son inconscience, c'est la mienne, avec son utopie, c'est la mienne, avec ma colère et aussi avec ma volonté. C'est-à-dire que tant pis pour la naïveté, tant pis pour l'inconscience. Moi, j'ai eu envie, avec Georges et avec Samuel, de tenter le coup. Nous avons ensemble tenté de monter Antigone à Beyrouth. La guerre a été la plus forte, mais en même temps, comme je le répète, je suis rentré.
Vous en parlez toujours avec énormément d'émotion. Sans Chalandon, c'est,
c'est
terrifiant
j'ai
à quel point vous
temps,
êtes
mais j'ai mis tout ce temps pour,
encore
pour
dans,
écrire.
Dans le sujet.
Mais je suis dans le sujet parce qu'à chaque fois que les mots ressortent, que les noms ressortent, Sabra, Chatila, les massacres, etc. Pour moi, ce ne sont pas des mots, ce sont des images. Ce sont ces images-là qui me bouleversent.
Et c'est ce qu'on lit dans votre livre. Merci beaucoup, Sorge Chalandon. Merci infiniment pour cette générosité, cette émotion. Le quatrième mur est publié aux éditions Grasset. On vous souhaite donc bonne chance pour le prix Goncourt. C'est un livre qui a particulièrement marqué la rentrée littéraire, un incontournable désormais à découvrir. Merci, Sorge.
Merci à vous.
Dans un instant, nous irons dans la plus grande librairie du monde avec nos libraires et nous serons avec Juliette Gréco qui raconte des souvenirs entre Saint-Germain-des-Prés et Saint-Tropez. Et voici donc un extrait du nouvel album de Juliette Gréco qui chante Brel. C'est le tube francophone de la semaine. Bonne soirée ou bonne journée à travers le monde avec la librairie francophone.
dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui chantent les rêves qui les hantent au large d'Amsterdam. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dorment comme des oriflammes le long des berges mornes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui meurent pleins de bière et de drames aux premières lueurs. Mais dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui naissent dans la chaleur et pêchent des langueurs océanes. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui mangent sur des nappes trop blanches des poissons ruisselants. Ils vous montrent des dents à croquer la fortune, à décroisser la lune, à bouffer des haubans. Et ça sent la morue jusque dans le cœur des frites que leurs grosses mains invitent à revenir en plus, puis se lèvent en riant dans un bruit de tempête, referment leurs braguettes et sortent en ratant. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui dansent en se frottant la panse sur la panse des femmes. Ils tournent et ils dansent comme les soleils crachés dans le son déchiré de l'accordéon rance. Et se tordent le cou pour mieux s'entendre rire. C'est ce que, tout à coup, l'accordéon expire. Alors, le geste grave, alors le regard fier, ils ramènent leur patame plein de lumière. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui boivent, et qui bravent et reboivent, et qui rebravent encore. Ils boivent de la santé des putains d'Amsterdam, ou d'Hambourg, ou d'ailleurs. Enfin, ils boivent aux dames qui leur donnent leur joli corps, qui leur donnent leur vertu pour une pièce en or. Et quand ils ont bien bu, se plantent le nez au ciel, se mouchent dans les étoiles et ils pichent comme je pleure sur les femmes infidèles dans le port d'Amsterdam, dans le port d'Amsterdam.
Juliette Gréco, Amsterdam, sur France Inter, la radio-télévision suisse, la RTBF et Radio-Canada.
Emmanuel Kérad.
Toutes les semaines, nous vous emmenons dans la plus grande librairie du monde, un lieu virtuel avec des libraires qui vont donc vous parler des livres dont on parle dans toutes les catégories. Et on commence dans le rayon des essais, en France, dans la librairie Oblique de Grégoire Courtois au CER. C'est à vous, Grégoire.
Alors, moi, je voudrais vous parler d'un livre qui va intéresser les amateurs de sociologie et de Colombo, voire les deux. Et même si on n'est pas fan, d'ailleurs, on peut aussi apprécier ce livre qui est un essai, une vraie étude vraiment très, très précise sur la série, donc célèbre.
Oui, c'est ce que je veux dire, la série, oui.
Absolument, voilà, de l'inspecteur Colombo, du lieutenant Colombo, qui, donc, avec son impère fripé, va déjouer les machiavélismes de tous les grands de Los Angeles. Et donc, en fait, la thèse de Lilian Mathieu, qui est sociologue et fan de séries télé, bien entendu, c'est de dire que on assiste le soir à 20h40 à une vraie lutte des classes, puisque on a des grands aristocrates ou la haute bourgeoisie de Los Angeles dont les plans sont mis à mal par un Américain moyen, inculte, médiocre, et qui va quand même, grâce à son intelligence, les déjouer. C'est un essai de sociologie fabuleux, et qui, par ailleurs, la thèse vraiment de, c'est que on peut ne pas être cultivé et être intelligent, et c'est une vraie question à se poser.
Ouais, une des nombreuses questions qu'on peut se poser autour de la culture. Colombo, la lutte des classes, ce soir à la télé, c'est le titre de Lilian Mathieu aux éditions textuelles. Merci beaucoup pour cet essai particulier, Grégoire. Pour la catégorie des livres de poche, on part au Québec, dans la librairie à lire. Manon Trépanier.
Et oui, je vais vous parler de Ruelle Océan, Emmanuel, c'est de Rachel Leclerc et c'est chez Boréal. Et je suis vraiment ravie que ce livre-là paraisse en poche parce que ça va donner une seconde vie à ce magnifique roman qui est franchement un de mes préférés. Il met en scène deux éclopés de la vie, une infirmière et son père. Ils sont en plein cœur d'un quartier défavorisé de Montréal et ils tentent de se recomposer une vie, malgré les souvenirs douloureux qu'ils ont en commun, malgré aussi la mer et les paysages gaspésiens qui font cruellement défaut dans cette jungle urbaine. C'est un roman plein de compassion, à la beauté douloureuse et à l'écriture très poétique. Puis ça, Emmanuel, vous savez que j'aime ça.
Oui, la poésie, on sait. Vous êtes une poète à vous toute seule en même temps. Hein. Ruelle Océan de Rachel Leclerc aux éditions Boréal. Merci Manon. Juliette Gréco est donc dans la librairie francophone pour un livre de photographie signé Georges Dudognon, photographe méconnu du grand public qui a pourtant été un grand témoin à travers ses photographies. Juliette Gréco, vous racontez certains souvenirs à Saint-Germain-des-Prés et à Saint-Tropez. Saint-Germain-des-Prés, un quartier de Paris qui, à la fin de la guerre, rassemble comme ça le monde des arts, le monde des lettres. Et vous dites, on n'a jamais vraiment su pourquoi.
De même que Montparnasse. Tout à coup, oui, comme ça. Ça tombe du ciel comme une météorite. C'est très, très, très bizarre. Voilà. Ils ont choisi cet endroit-là, ce village, qui était un village très convenable, avec des petites dames habillées de noir, avec des petits chapeaux, avec des petites chaussures, avec des petits parapluies et tout. Cet endroit si calme, si bourgeois, si grand bourgeois même. Et...
C'est déridé un petit peu.
Ah ben, grâce à vous. On a foutu un désordre absolument céleste.
Alors c'est dans ce quartier que vous rencontrez Boris Vian à la terrasse d'un café, sans faire de publicité, un célèbre café. Voilà, tout le monde va reconnaître, ne serait-ce qu'en disant ça. Vous dites qu'il vous a rendu l'usage des mots.
Il m'a rendu l'usage de la parole, oui.
Pourquoi ? Parce que vous ne parliez plus ?
Non,
vous étiez mutique ?
Non, quand j'étais petite, j'étais un peu mutique. J'étais, ouais. J'étais un enfant effrayant et je ne voulais pas parler. Je trouvais ça inutile. Ma sœur parlait beaucoup et ça me suffisait largement. Pendant ce temps-là, pour moi, je pensais à autre chose. Il y a eu la guerre et il y a eu les interrogatoires de la Gestapo et l'emprisonnement pour moi. Ça a été un très grand choc parce que je sortais d'endroits religieux dans lesquels on ne m'avait pas appris que ça existait, cette violence-là. Et c'était une inhumanité, voilà. Donc j'étais un peu surprise et j'en ai perdu l'usage de la parole.
Voilà, vous êtes refermé en fait.
Hein, complètement, totalement.
Alors grâce à lui, finalement, vous commencez à vous exprimer, vous commencez à vous montrer, à être connu. Et vous êtes même avec lui quand il sort son livre « L'écume des jours ». Et à ce moment-là, il est très contrarié, Boris Vian, parce que son livre ne marche pas.
Oui, mais des choses comme ça. Quand Cambrel a écrit « Ne me quitte pas », ça n'a pas marché. Quand Gainsbourg a écrit « La javanaise », on s'est ramassé des râteaux absolument effroyables, lui comme moi. Et tout à coup, c'est devenu ce que c'est. Quoi.
Enfin, lui moins que vous après, si je peux me permettre. Parce qu'après, il l'a reprise à son compte, cette chanson.
Oui, elle est à lui. Hein.
C'est ça, oui. Alors, c'est Boris Vian qui vous fera découvrir une ambiance musicale dans certains clubs de jazz. Juliette Gréco, dans cette ambiance, écoutez donc. Qu'est-ce qu'elle évoque pour vous, cette musique?
C'est adorable, c'est tellement joyeux, c'est tellement enfantin, c'est tellement... Voilà, ça s'appelle la jeunesse, ça s'appelle l'inconscience, ça s'appelle le plaisir.
Vous avez encore ce sentiment de plaisir, impression
oui,
de...
Mais bien sûr. C'est comme le goût de certains fruits ou de certaines tartines de l'enfance. Ça passe jamais, ça.
On ne peut pas parler de jazz avec vous, Juliette Gréco, sans évoquer Miles Davis, que vous rencontrez dans les cafés. Elle joue du violon comme ça. Je dis ce que vous faites parce que... Et vous rencontrez alors Miles Davis dans les coulisses de la salle Pleyel.
Oui.
C'est un vrai coup de foudre, il paraît.
Ah bah oui, ça existe. De lui et de moi, ça s'appelle un regard échangé et absolument magique. Ça ne s'est jamais arrêté. On s'est séparés, bien sûr, mais, ouais. mais Sartre avait dit à Miles Miles, pourquoi vous n'épousez pas Gréco? Et il lui a répondu: parce que je l'aime.
Ouais.
Et je ne veux pas la rendre malheureuse. Et il avait raison, parce que ça, à cette époque-là, c'était encore bien pire. Un noir, une blanche, était un objet de scandale absolu.
Vous vivez le racisme avec lui, hein, vous le racontez d'ailleurs, oui. Vous l'évoquez dans le livre aussi. Il était lui-même raciste, hein, vous osez le dire. Il rêvait d'une Rolls blanche avec un chauffeur blanc. C'est une sorte de vengeance, en fait. Et vous, vous crachez dans la main d'un serveur, je crois, aux États-Unis, parce qu'il refuse à Paris. Parce qu'il refuse de vous donner une table parce que vous êtes avec un noir.
Oui.
Le noir, c'est Miles Davis.
Je pense qu'il a dû le regretter. Enfin, moi, je n'ai pas regretté mon crachat, mais j'en suis assez contente.
Vous êtes fier de ça aujourd'hui.
J'en suis très contente.
Vous avez raison. Jean-Paul Sartre, alors Jean-Paul Sartre, autre rencontre déterminante pour vous, Juliette Gréco, c'est lui qui vous pousse à chanter ?
Oui.
Oui, vraiment.
C'est lui, Jacques-Laurent Post et Anne-Marie Casalis, et Marc Delnitz, par la même occasion. Mais je dis à Sartre, mais j'ai pas envie de chanter, moi, quelle drôle d'idée. Si, vous avez une très belle voix. Puis il était catégorique hein. En plus. Moi j'étais respectueuse et tout, j'étais élève, j'étais même pas femme, même pas fille, j'étais élève, point final. Et j'étais respectueuse et j'écoutais ce qu'il me disait, mais bon, j'ai trouvé ça un peu violent. Et puis le lendemain, je suis arrivé chez lui, il avait choisi des textes.
Alors il vous offre des chansons, du coup, vous acceptez, et il y a cette chanson La rue des Blancs-Manteaux.
De lui.
La rue des Blancs-Manteaux, ils ont élevé des tréteaux et mis du son dans un seau. Et c'était un échafaud dans la rue des Blancs-Manteaux.
C'était les débuts des vies, vous me disiez.
C'est une petite fille, oui.
Tout jeune, toute jeune. Hein,
ah
là,
bah oui.
Jean-Paul Sartre qui disait de vous, Juliette, « Gréco a des millions dans la gorge, des millions de poèmes qui ne sont pas encore écrits, on en écrira quelques-uns. » Alors vous dites ça m'a mis la pression, parce que vous confiez qu'à l'époque, vous étiez déjà célèbre sans avoir rien fait de particulier.
Non. Non, c'était absolument terrifiant.
C'était facile.
Non, c'était terrifiant.
Ah oui. Pourquoi terrifiant ?
J'en suis toujours là, je me demande toujours pourquoi.
Bah maintenant, mais... non.
Si.
Bah quand même.
Bah, j'ai fait des progrès.
Bah, oui. Pas mal de progrès.
Oui.
C'est vrai que vous le respectiez au point de ne pas pouvoir l'appeler par son prénom, Jean-Paul Sartre ? Vous l'appeliez monsieur ?
Ça ne serait pas venu à l'idée.
Ah oui.
Non. De même que Simone de Beauvoir, je ne l'ai jamais appelé Bomone. Non.
Il y a une marge entre les deux, quand même.
Oui, mais enfin bon, c'est quand même une dame respectable. Et, ouais. Et j'étais quand même une toute jeune fille qui n'existait pas que physiquement.
Alors, vous existez quand même au point d'aller à Saint-Tropez, Juliette Gréco, c'est un petit port de pêche à l'époque qui est inconnu.
Colette, totalement. Chez Boris, c'est Boris qui
m'a invité. C'est Boris Vian, voilà, qui vous dit, tiens, il faut aller voir ça. Colette, il y a une maison, on sait que Gérard Philippe a eu des vignes, mais pas plus que ça. Et vous dites d'ailleurs que vous avez reconstitué Saint-Germain sous le soleil.
Complètement. On a à peine changé nos horaires.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'on dormait que par hasard et plutôt le matin.
Et Bardot, alors, dans tout ça ?
Ben Bardot, elle était ce qu'elle était, c'est-à-dire d'une beauté absolument renversante, éblouissante. Voilà, elle était vraiment la plus belle femme du monde, ça, c'est sûrement vrai, quelque part.
Enfin, est-ce qu'elle a perverti le lieu ?
Pas du tout.
Avec votre concours ? Parce que vous avez amené tout Paris à Saint-Tropez, du coup, ça a changé.
Mais non, on a été des enfants dissipés.
Quand ça, même,
oui. Ah oui, très, très, très dissipé, très joueur. Et voilà. Et puis, on faisait plein de bêtises. Mais enfin, c'était pas très grave ce qu'on faisait. On empêchait les gens de dormir, comme d'habitude, mais ça, on le faisait aussi à Saint-Germain. On était très dissipés. On avait lâché les enfants dans la rue, quoi.
Voilà. Oui, mais vous avez changé Saint-Tropez. Du coup, c'est devenu un lieu à la mode.
Mais ce n'est pas vraiment nous qui l'avons changé, ce sont les imbéciles qui sont venus.
Mais qui sont les imbéciles qui sont venus, Juliette ?
Ben, j'en sais rien.
Tous les gens de Paris
non,
qui sont
non,
venus.
Non, il y a eu tout. Je sais pas, c'est devenu un parc d'attractions.
Oui, c'est ça.
Les gens venaient nous regarder.
Fallait s'y attendre.
Non.
Ah non.
Non. Ah non, non, les enfants, ça ne réfléchit pas à des choses pareilles.
Elle est de mauvaise foi, hein, Sorge Chalandon. Il l'applaudit, Sorge. Il y a une autre rencontre, Juliette Gréco, une belle histoire d'amitié qui s'épanouit d'ailleurs à Saint-Tropez. C'est la rencontre avec Françoise Sagan.
Sans vous aimer, je suis seule et déçue. Vous m'aimiez et l'été me brûlait. Et dans l'allée
Françoise Sagan qui vous a écrit des chansons, dont celle-ci, Sans vous aimer. Vous expliquez d'ailleurs avoir eu le même désir de liberté qu'elle. Quel genre de liberté vous partagiez toutes les deux?
J'ai dit ça, moi?
Oui.
Ah bon. C'est bien possible. Je suis né libre. J'étais un enfant libre. J'étais un enfant muet, mais un enfant libre. J'étais une jeune fille libre, je suis une femme libre, maintenant je suis une vieille dame libre.
Elle vient d'où cette liberté, Juliette Gréco?
Du désir. Je ne peux pas supporter la contrainte. Je ne peux pas. Je veux bien écouter. J'ai écouté toute ma vie. Je continue d'écouter. Tout ce que j'aime au monde, c'est entendre, c'est apprendre. J'adore ça. C'est bon, on est là pour ça, d'ailleurs. Et ce qui fait que la vie est courte, c'est qu'on n'a pas le temps d'apprendre tout ce qu'on devrait apprendre et de voir tout ce qu'on devrait voir. Voilà. C'est un peu regrettable. C'est la seule chose qu'on peut regretter dans la mort, c'est de ne pas continuer à rigoler et à découvrir.
Est-ce que vous regrettez de l'avoir un peu abandonné, Françoise Sagan, à un moment? En tout cas, c'est le sentiment qu'elle
pas,
a eu.
Je ne l'ai pas, oui. Je sais qu'elle a eu ce sentiment-là.
Qu'elle était plongée dans la drogue, hein, c'est ça, elle se
détruisait. Je ne peux pas supporter voir en face de moi quelqu'un que j'aime profondément, pour qui j'avais un immense respect, et beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de tendresse. Voilà. Et de voir se détruire quelqu'un qu'on aime, ce n'est pas très facile. Je n'ai pas eu ce courage-là. Et puis, de toute façon, Françoise avait choisi de vivre une vie assez particulière. Ah. Moi, la drogue, je suis né drogué, donc je n'ai pas de problème.
Vous êtes né drogué?
J'ai aucun problème, je n'en ai pas besoin.
Vous êtes tombé dans la potion quand vous étiez petite?
J'ai aucun problème, j'ai aucun besoin de ça.
Sans en avoir besoin.
Ah, non, je suis folle de ma bonne folie, tranquille, ça va. Non, je n'ai pas besoin de ça.
Dans ce livre, Juliette Gréco, on trouve aussi votre ami Jean Cocteau. Montand et Signoret, vous décrivez cet amour incroyable entre les deux.
C'est ce regard, oui.
Surtout les regards de Signoret. Simone de Beauvoir qui vous remplit d'admiration, Jacques Prévert, Charlie Chaplin. Il y a aussi une photo dans la maison d'Auguste Renoir où vous êtes. Et un clin d'œil à Orson Welles qui vous impressionne avec ses tours de magie.
Oui, oui, je m'ennuyais beaucoup sur le tournage d'un film qu'on faisait avec lui. Et J'étais dans ma loge bougon. Je vois arriver mon Orson qui me dit « Je vais te montrer des choses ». Et il m'a fait des tours de magie absolument. C'était un grand magicien. Ah oui, il a fait une tournée aux États-Unis, une grande tournée. Il faisait des trucs incroyables.
Cette magie de l'époque, elle tient à quoi, Juliette Gréco, alors? À tous ces moments, à tous ces instants de vie comme ça, cet inattendu permanent?
J'étais gâté pourri, moi. J'étais gâté pourri. J'ai eu faim, j'ai eu peur, j'ai eu froid, j'ai eu rien, mais j'ai eu tout ce qui est le plus luxueux du monde et au monde, c'est-à-dire des gens qui vous répondent, qui répondent à vos questions, des gens qui vous disent des choses, des gens qui vous apprennent des choses, des gens qui ont fait une confiance absolue parce qu'on sait qu'ils répondront. C'est magnifique.
Et c'est ce que vous gardez aujourd'hui, alors?
Oh, bah tiens.
Bah tiens. Merci beaucoup, Juliette Gréco. Merci infiniment d'être venue dans la librairie francophone. Juliette Gréco raconte de Saint-Germain-des-Prés à Saint-Tropez, photographie de Georges Dudognon, est parue aux éditions Flammarion. À noter donc que votre nouvel album, Gréco chante Brel, dont on a entendu un extrait, est paru chez Deutsche Grammophon. Merci beaucoup, Juliette. À très bientôt.
Deutsche Grammophon.
C'est pas mal, non?
Bah oui, c'est bien.
Oh, c'est la classe.
C'est chic.
C'est chic. Deuxième partie de la chronique des libraires, ça aussi c'est chic, on va dans le rayon des romans contemporains en Belgique avec Annick Dor.
Oui Emmanuel, alors moi j'ai choisi de vous parler de Monsieur Optimiste, le dernier roman d'Alain Berenbaum. Alors c'est un vrai coup de cœur, j'avoue, il traite en fait de l'arrivée en Belgique de ses parents à la fin des années 20, le père étant polonais et la mère lituanienne, des réfugiés qui ont en fait tellement le souci de s'intégrer qu'ils effacent toute trace de leur vie d'avant. Et des années après leur mort, eh bien le narrateur découvre toute une série de choses sur son passé et sa famille qu'il ignorait complètement.
Alors je sais que ce que je vous dis là doit sembler sans doute du déjà vu, mais c'est étonnamment très différent des livres qui traitent de ce genre de sujet. Le ton est résolument vif, tendre et puis drôle. Un mélange en fait d'anecdotes loufoques et puis un regard un peu nostalgique comme ça sur les siens. Donc d'après moi, c'est vraiment le meilleur roman de l'auteur.
Monsieur Optimiste d'Alain Berenbaum, on en parle beaucoup en Belgique, ouais. Et c'est aux éditions Genèse. Merci Annick. Pour la catégorie des livres jeunesse, on pioche dans les rayons suisses de la librairie du Boulevard et c'est chez Laura Sanchez à Genève.
Oui, alors moi je vais vous parler d'une drôle d'encyclopédie qui présente des animaux uniquement. Alors vous vous demanderez peut-être quel est l'intérêt d'une xième encyclopédie sur des animaux.
Oui.
Je ne vous cache pas qu'en librairie on se pose ce genre de questions. Eh bien je dirais que ce sont les choix de l'illustratrice parce qu'ils sont très originaux. Ses dessins sont exacts, mais elle les regroupe avec beaucoup d'audace. Il y a les champions de l'apnée, les bruyants, les fidèles, les architectes, mais aussi les disparus et les légendaires. Donc voilà, je vous invite à relire Le règne animal sous le crayon d'Adrienne Barman et cette drôle d'encyclopédie, car c'est son titre, c'est édité à la joie de lire.
Exactement, vous avez tout dit. Est-ce qu'il y a des lions ?
Oui, bien sûr.
Parce que
ce
Juliette
sont
Gréco
les majestueux.
Voilà.
Les tigres aussi.
Oui.
J'ai travaillé
oui,
avec
il y a aussi
les tigres.
Oui, vous avez travaillé avec les tigres aussi. Voilà, bon, ben, on va vous envoyer le livre.
Il y aura tout ce qu'il faut.
Merci Laura, merci beaucoup. Ouais. À suivre dans la librairie, le roman d'un sale type. Michel Laya vous raconte comment on devient un pauvre type. On poursuit avec le chanteur franco-libanais Baz Baz. Vous écoutez la librairie francophone sur Radio-Canada, Radio France, la RTS et la RTBF.
Je t'ai fait de l'amour à manger avec les doigts. Je t'ai fait de l'amour à manger quand il fait froid. Je t'ai pris de la vie à manger à tout prix. Ow, 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 ow. Oh yeah, yeah, yeah. Je t'ai préparé de l'envie, les doigts collés sous ton collant. Je t'ai préparé de l'envie tout le temps. Je t'ai pris de la nuit à griller sans répit. Ow, 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 ow. Oh yeah, yeah, yeah.
Baz Baz, Love Burger sur Radio-Canada, la RTBF, la radio-télévision suisse et sur France Inter.
La librairie francophone.
En tant qu'écrivain, ce qui m'intéresse plus, c'est précisément d'aussi engendrer un monde qui, dans le fond, avec la réalité, a des liens qui sont effectivement assez distendus.
Emmanuel Queyrade.
Et bonjour Michel Laya.
Bonjour.
Soyez le bienvenu à nouveau. Vous êtes un habitué de l'émission, on vient de vous entendre. C'était dans une précédente émission. Vous êtes un auteur suisse né à Fribourg. En 2004, vous obtenez le prix des auditeurs de la radio suisse romande. Depuis, vous avez publié 5 romans. Le dernier en date, Le tapis de course, vient de sortir chez Zoé. C'est l'histoire d'un pauvre type qui se fait traiter de pauvre type un jour par quelqu'un dans un supermarché. Et pourtant, il est très content de lui, cet homme-là. Sa vie est une succession de performances. Mais il a un fond méchant, il est comme ça aigri dans sa petite vie en boîte. Comment devient-on un sale type, Michel Laya?
Ah, c'est une question compliquée.
Vous avez étudié le dossier.
J'ai étudié le dossier. Oui. Mais c'est vrai que lui, au départ, il semble qu'il a une vie assez réussie comme ça, et on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de lézardes en fait dans cette construction. Je ne sais pas combien on devient un pauvre type. On devient un pauvre type. En tout cas, lui l'est parce que. Après tout ce qu'on a entendu que Juliette Gréco nous a dit sur la liberté, sur le bonheur, sur tout ce qui est de l'ordre de l'offensive de vie, alors lui c'est le contraire de tout cela, c'est la négation de tout cela. Et en plus, le pire d'une certaine façon, c'est qu'il supporte pas de voir le plaisir chez les autres. Et en fait, il casse toute offensive de vie qui peut autour de lui apparaître et naître.
Mais alors cette insulte, du coup, elle déclenche quelque chose chez lui. Est-ce qu'une insulte banale comme celle-ci peut faire réfléchir? Est-ce qu'elle peut nous mener à nous interroger sur ce qu'on est vraiment?
Alors, lui, il travaille, il est responsable du secteur philosophie et littérature de la grande bibliothèque, hein, comme je l'appelle. Donc, c'est quelqu'un qui ingurgite un nombre de livres absolument incroyable. Il a un rapport complètement pathologique, en fait, à la lecture. Hein. C'est une sorte d'abattage, comme ça. Et puis, en fait, on a l'impression que tout ce qu'il lit ne le transforme pas, ne le constitue pas, n'a aucune incidence sur ce qu'il est, hein. Il reste indécrottablement celui qu'il est. Et paradoxalement, une toute petite phrase, effectivement, lâchée, mais je crois que c'est assez important, c'est le début du livre sur un ton qui est absolument pas agressif, qui est un ton d'un constat, un ton très indifférent, comme par un jeune homme. Il lui dit pauvre type.
Parce qu'il ne le laisse pas passer, en fait.
C'est une situation qu'on connaît tous. Hein, il est là à la caisse avec un chariot. Il y a un jeune garçon derrière lui qui a juste un litre de jus d'orange qui remonte la file. Et lui, en fait, il fait barrage avec son corps et il l'empêche de passer. Et le jeune garçon lui dit pauvre type. Et en fait, là, oui, ces quelques mots vont en fait comme un poison insidieux s'insinuer en lui, et ça va l'amener à une sorte d'introspection. Je ne sais pas si c'est le bon mot, parce qu'encore faut-il avoir une intériorité pour pouvoir se livrer une introspection.
Exactement. On va voir du côté des libraires comment ça se passe. Annick, pour la Belgique, vous voulez intervenir?
Oui, mais moi c'est vrai que j'étais un petit peu dérangée par votre personnage. J'avoue que son cynisme et puis ses coups bas m'ont rendu le livre un petit peu indigeste. Mais en même temps, il faut reconnaître, et c'est certainement la force de ce livre, c'est que le fait d'être mal à l'aise en regardant évoluer le personnage, prouve qu'en fait il est terriblement crédible. On peut tous quelque part en partie se reconnaître dans certains de ses comportements, de manière atténuée quand même, hein, je tiens à le préciser, mais on est tous un jour quelque part le pauvre type de quelqu'un d'autre. Mmh. Et je trouvais que le personnage, du coup, il agit un peu comme un miroir de notre côté peut-être le moins flatteur, et ça rend par moments la lecture forcément un petit peu désagréable.
Ah oui, ça vous a inquiété sur vous-même, en fait.
Ouais, je me pose plein de questions.
Faites attention, Annick, hein, vous êtes sur le mauvais chemin.
Mauvaise pente, là, oui.
Laura, pour la Suisse, que voulez-vous dire à Michel Laya?
Eh bien, moi, j'ai pas été mal à l'aise, j'ai vraiment aimé. J'ai aimé ça dans le sens où je suis très épatée par la manière très douce et la finesse avec laquelle vous m'avez menée à simplement détester votre personnage et son tapis de course avec. Et puis, ensuite, ça s'installe dans une violence ordinaire qui devient complètement inacceptable, en fait.
C'est vrai que ce personnage est détestable, on ne peut pas avoir de sympathie pour lui tant il en a peu pour les autres. Même aider ses amis, il en est incapable, mais il a quand même un fond de remords de temps en temps, comme ça, cela parsème le livre. Est-ce que c'est son éducation qui le rattrape, ou c'est la notion de bienséance qui l'oblige à avoir du remords?
Bon, quand vous dites « même aimer ses amis, il en est incapable ». Je pense que les petites bassesses, les petites mesquineries qu'on voit, elles sont souvent dans un cercle en fait assez restreint. C'est un livre sur l'amitié aussi, hein, pour moi, très fortement, ce livre-là. Sur l'amitié qui échoue, parce que pour pouvoir avoir un ami, il faut être capable de partager non pas ses peines, mais ses joies. Je me demande des fois, enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais j'ai beaucoup de retours de gens, hein, qui effectivement parfois ne sont pas très à l'aise avec ce livre, mais les personnes me disent c'est terrible parce que je connais quelqu'un, en fait je me rends compte que etc. Et donc vous dites impossible d'avoir de la sympathie pour ce personnage, en même temps je pense qu'il y a plein de gens qui ont une forme de sympathie parce qu'il est, peut-être pas si éloigné. Évidemment,
c'est autre chose, peut-être pas si éloigné.
Ah ben, bien sûr que c'est grave. de beaucoup de comportements qui malheureusement sont peut-être plus fréquents qu'on l'imagine.
Alors Manon, pour le Canada, êtes-vous éloigné ou pas de ce personnage, vous ?
Ben, j'espère en être très très éloigné, Emmanuel. À vous de me le dire. Mais en même temps, moi, j'ai peut-être un petit cœur de docteur Freud, mais j'avais une certaine compassion pour lui parce que c'est vrai qu'il est terrible, il est un peu sociopathe, là, mais on dirait qu'il y a une énorme blessure narcissique à la place du cœur. Est-ce que je me trompe?
Oui, moi je vous ai raison. Pour moi, il y a aussi il y a quelque chose de fondamentalement triste chez le personnage parce que il a une conscience de son impuissance en fait à avoir du plaisir. Il y a un épisode à un moment donné, il s'arrête pour regarder un match de football comme ça, et puis il y a une petite équipe locale qui joue contre une équipe qui est beaucoup mieux classée, et en fait la petite équipe va gagner le match et il y a une explosion de joie sur le terrain, les joueurs s'embrassent et tout, et lui il est là, il est parce qu'il a des lettres, hein, et parce qu'il a une culture, il se permet d'être méprisant par rapport à cette joie simple, okay, qu'il méprise, mais qu'il ne peut pas avoir. Et quand il arrive chez lui ensuite, il se regarde dans le rétroviseur de sa voiture et il se dit « Toi, des bonheurs, tu en connais d'autres et bien plus raffinés. Hein. » c'est terrible et c'est très triste, vous avez raison, on peut avoir de la compassion pour lui.
Mais son bonheur, c'est de se retrouver sur un tapis de course. C'est le seul endroit où il se sent vraiment bien. Le meilleur du marché, il tient à le préciser, il court après la performance. C'est un peu la métaphore de sa vie, ça, ce tapis de course. Une vie droite, laborieuse, la performance...
Et qui ne mène nulle part.
Oui, en plus, oui.
Ouais, c'est surtout ça.
Grégoire, pour la France, comment s'est passée votre lecture ?
Pas très bien, effectivement, mais je ressens à peu près ce qu'ont ressenti mes collègues libraires aussi, c'est-à-dire que c'est très désagréable de lire le destin d'un personnage exécrable comme celui-ci. Et en même temps, moi, je me suis posé des questions sur le projet littéraire, parce qu'on s'attend à ce que ce pauvre type déclenche quelque chose chez ce personnage, et moi, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une évolution particulière, c'est ça qui m'a beaucoup gêné. Et du coup, raconter l'histoire de ce pauvre type, juste pour la raconter et nous montrer quelque chose qui, à mon avis, quand même, est un peu trop poussé. Moi, je ne me reconnais pas et je ne reconnais pas personne de mon entourage dans ce personnage. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas un peu vain, tout ça ?
Non, mais ce qui était intéressant, c'était et la chose n'était pas évidente, c'était de voir comment, en fait, ce personnage, quelle parole est-ce qu'il pouvait avoir ? Comment donner parole à un personnage a priori si détestable ? Comment le faire parler ? Quelle langue lui donner ? Quel mot mettre entre sa bouche, et tout le défi littéraire, il est là, c'était de trouver une langue qu'il puisse avoir et qui puisse être possible pour ce personnage-là. Et ça, c'était littérairement très intéressant.
Il est dans une léthargie négative quand même, hein, on peut dire ça, sa vie n'apporte rien. Ni à lui, ni aux autres d'ailleurs. Non, pas pour
vous. Oui, vous avez parlé de remords tout à l'heure. Peut-être qu'il y a quand même quelques signes d'espoir.
Allez, soit, ouais. un peu de lumière. Un peu de lumière. Ouais. Vous avez croisé des sales types, Juliette Gréco, vous ?
Ouais.
C'est vrai.
Oui, oui.
Comme on vient de les décrire.
Je n'ai pas poussé l'expérience. quand je vois un sale type, je m'en vais. Ou alors j'attaque. C'est ça. Ouais. J'étais un peu violente. Enfin, je suis violente. Quand il n'y a plus de mots, il y a des gestes et c'est regrettable.
C'est regrettable. Voilà. Merci beaucoup, Michel Laya, en tout cas d'être venu nous présenter ce nouveau roman, Le tapis de course, paru aux éditions Zoé, un livre donc qui agite nos libraires, vous l'avez entendu. À vous donc de vous faire une opinion, à vous qui nous écoutez. Merci à tous nos libraires dans les pays francophones. Au revoir à tous.
Au revoir Emmanuel.
Au revoir Sans Chalandon. Au revoir Juliette Gréco, Michel Laya. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à ce programme. Bonne semaine à vous. Suisse, en Belgique, en France, au Canada et à travers le monde.
La librairie francophone.
Et c'est la fin de cette édition coproduite et diffusée par Radio France, la RTS, la RTBF et Radio-Canada. Toutes les infos sur l'émission, c'est sur librairiefrancophone.com et je vous retrouve sur les réseaux sociaux pour communiquer avec vous. À la réalisation, Marie-Hélène Fauquet avec Julien Chabassu, Muriel Pérez à la programmation musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Verret avec Christophe Magère et Leïla Kourousselikoua en France, Martine Béguin-Felet avec Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Claude Gaudin avec Stéphanie Leclerc au Canada. Événement la semaine prochaine avec une émission spéciale autour d'Albert Camus à l'occasion du centenaire de sa naissance. Bonne semaine à tous, à bientôt, salut.